11 décembre 2008, le FBI arrête l'un des financiers les plus respectés au monde, qui se révèle être un escroc d'envergure, Bernard Madoff, l'homme qui valait 50 milliards.
L'arrestation de Madoff fait la une. Il y a très vite un sujet sur CNN qui dit « Tiens, le financier Bernard Madoff est arrêté par le FBI. » On est dans cette période où il y a une crise financière majeure. Et donc, tous les jours, on s'attend à ce qu'il y ait des faillites. Et puis, ses victimes se disent « Bon, c'est pas grave. » On a mis de l'argent chez lui, on va récupérer cet argent. Ils n'ont pas l'idée qu'il ne reste plus rien de cette montagne d'argent qu'ils lui ont confié. Quand les gens vont comprendre ça, là, ça va très très mal se passer. Il y a des gens qui sont ruinés du jour au lendemain, donc ils veulent assassiner Madoff.
Si les 19e et 20e siècles regorgent d'une multitude d'histoires d'escroqueries financières plus ou moins spectaculaires, c'est en ce début de 21e siècle aux États-Unis qu'explose la plus emblématique d'entre toutes, celle de Bernard Madoff.
C'est un manipulateur. Il utilise sa capacité à séduire les gens comme moyen pour arriver à ses fins.
Les personnes qui créent des sociétés pour Wall Street viennent en général de familles privilégiées. Ils sortent souvent des meilleures écoles et c'est ce qui garantit leur carrière dans le business de la finance. Madoff n'avait rien de cela.
Pour tenter de comprendre comment cette gigantesque arnaque a pu durer plus de 20 ans et concerner autant de personnes, il est pertinent de se pencher sur les ressorts psychologiques et les motivations de ce criminel hors du commun. Et cela grâce au témoignage exclusif de ceux qui communiquent avec Bernard Madoff depuis plusieurs années. Parmi ces témoins, Eugène Soltès, professeur de management à Harvard. Il a publié un ouvrage sur les escrocs en col blanc, a échangé à de nombreuses reprises avec Madoff et a enregistré ses conversations.
Starting from scratch type of entrepreneurial type of enterprise where, you know, you start out not exactly, at least in my part, not exactly sure what I wanted to do in life other than be a success.
Contrairement à la plupart des cas de fraude, il connaissait ses victimes. C'était sa famille, c'était des amis, c'était des membres de la communauté juive. Finalement, il ne nuisait qu'à des personnes proches. C'est très différent de la plupart des affaires d'escroquerie en col blanc dans lesquelles les victimes sont très éloignées des criminels. En fait, ils n'ont pas vraiment à connaître ou à fréquenter leurs victimes pour leur causer du tort.
Son arrestation arrive dans un contexte de crise après la plus grosse banqueroute de l'histoire de Wall Street, la chute de la banque d'affaires Lehman Brothers. La débâcle de Madoff est la faillite de trop. Le lendemain, il est relâché sous caution. Les petits et gros investisseurs sont à cran, les journalistes prêts au lynchage. La sociologue Colleen Herren correspond avec l'escroc depuis plus de 4 ans et prépare un livre sur l'affaire.
Madoff est sorti de son appartement et les médias l'ont encerclé si étroitement qu'il ne lui laissait plus de place. Ils l'ont bousculé pour obtenir leurs images. Les médias ont souvent décrit la colère des investisseurs comme de la rage. Il y avait une ambiance sulfureuse. Ils voulaient du sang, ils voulaient un lynchage. Vous aviez cet homme qui était le visage de Wall Street et qui incarne désormais le mal. Les investisseurs campaient devant chez lui et criaient « Bernie, il n'est pas trop tard, saute !»
La presse le diabolise et le compare même au Joker de Batman. Chez les dizaines de milliers de victimes de l'escroquerie de Bernard Madoff, la nouvelle de cette fraude inimaginable provoque un séisme.
C'était une tornade, un cyclone, un tsunami. Tout le monde est sidéré que cela puisse arriver. Ils ne pouvaient pas croire que cet homme digne de confiance et qui était dans le business depuis si longtemps était en fait un imbécile.
Ça a été cataclysmique.
Sa place est en prison. Je veux qu'il reste dans une cellule loin de son bel ordinateur et de son appartement à 7 millions de dollars. Dans notre groupe, il y a des gens qui n'ont aucune idée de l'endroit où ils vont habiter dans 2 ou 3 mois. Ils n'ont plus que 2 ou 3 mois d'argent d'avance.
Hélène Chetman est avocate de 300 des victimes de Bernard Madoff. Elle a également investi dans le fonds et se souvient du jour de l'arrestation.
C'est un de ces moments que l'on n'oublie jamais. Comme l'endroit où vous trouviez quand les avions se sont écrasés contre le World Trade Center. J'ai perdu toutes mes économies. Cela m'a pris 1 ou 2 semaines pour m'en remettre. C'était choquant.
Nous allons nous glisser dans la tête de Bernard Madoff pour tenter de comprendre comment il a pu défier les plus grandes autorités du marché financier américain. C'est ici, sur la 3e avenue, dans le légendaire Lipstick Building, qu'il a installé son fonds d'investissement. Dans ses bureaux, il a orchestré une des plus grandes escroqueries du siècle. Jour après jour, pendant 20 ans, il a réussi à berner des dizaines de milliers de victimes. Tout repose sur une simple fraude pyramidale, appelée chaîne de Ponzi, du nom de Charles Ponzi, un immigré italien qui a recours à ce système dans les années 20. Charles Ponzi, un escroc sans le sou, fonde une société financière. Son slogan : prêtez-moi votre argent et vous toucherez 50% d'intérêt. En quelques semaines, 30 000 épargnants confient à Ponzi 10 millions de dollars. Sa fortune est fulgurante. La presse commence à avoir des doutes. Voilà ce que les enquêteurs découvrent. Avec l'argent des nouveaux clients, il rémunère ses anciens clients. C'est la première chaîne financière, la chaîne de Ponzi. Mais quand l'argent des nouveaux souscripteurs ne parvient pas à recouvrir les dividendes des anciens, tout s'effondre. Bernard Madoff a donc utilisé la même technique en apportant à ses clients des revenus réguliers avec un taux d'intérêt stable à plus de 10% grâce à l'argent des nouveaux arrivants.
Six clients à moi ont investi dans le fonds de Bernard Madoff. Ils n'ont pas placé leur argent via des fonds nourriciers, mais directement chez lui. L'ampleur de ces investissements allait, je pense, de 1,5 million de dollars pour le plus petit, peut-être 1,8 million. Et pour le plus important, cela se situait entre 75 et 80 millions de dollars.
Plus de 10% d'intérêt dans le monde de la finance. C'est un rendement plus qu'intéressant. De quoi rendre tout de même méfiants certains gestionnaires de fortune qui ont eu la possibilité de le rencontrer. C'est le cas de l'un d'entre eux qui s'est entretenu avec lui en 2005.
Le gestionnaire de fonds remarque que dans le bureau de Bernard Madoff, il y a une espèce de sculpture qui représente une vis. Le gestionnaire demande « Mais pourquoi une vis ?» Et Madoff de lui répondre « Alors en anglais, une vis, c'est a screw. » Et dans l'anglage courant, « To screw, pardon par avance, c'est baiser. » Et il va lui dire « It's a screw, because I screw people. »
C'est à Palm Beach, au nord de la Floride, que Bernard Madoff vient le week-end recruter ses nouvelles victimes. Une station balnéaire pour milliardaires, là où tout est chic et glamour. Entre palmiers et yachts, entre hôtels de luxe et clubs fermés, avec des retraités prêts à investir dans des œuvres de charité comme dans des fonds financiers.
C'est l'endroit où se mettent à la retraite des gens qui ont passé leur carrière à Wall Street. Donc ceux qu'il va recruter à Palm Beach et en Floride sont en réalité des gens issus de la même communauté, mais plutôt des retraités.
Bon, Palm Beach et Chamonix, Genève, Saint-Tropez, une sorte de représentation générale des vieux riches et en plus avec des logiques relativement communautaires. C'est-à-dire que c'est un lieu très prisé de la communauté juive, donc on avait tout le monde sous la main.
Bernard Madoff a compris rapidement les bénéfices qu'il pourrait tirer en intégrant cette communauté. Il aime se montrer dans les palaces et joue sur sa réputation de bon financier à Wall Street. Il affiche une apparente gentillesse. À Palm Beach, on le surnomme « Oncle Bernie ».
Bernard Madoff jouissait de la considération et de l'admiration du monde de Wall Street. C'était un insider, c'était quelqu'un qui était à l'intérieur du système. Les gens disaient « Bernie, quand même, il est fort, il sait faire des trucs que nous, on ne sait pas faire. » Et il a escroqué uniquement des gens qui étaient proches de lui, de la même communauté et à qui il faisait confiance.
C'est ce qu'on appelle une fraude par affinité, c'est-à-dire qu'il a escroqué en particulier de façon impressionnante la communauté juive aux États-Unis. Il a escroqué des gens avec lesquels il jouait au golf, il a escroqué des gens avec lesquels il organisait des opérations de charité. Et sa grande force, ça a été ça.
Madoff. Madoff est quelqu'un de fascinant. L'étendue de ses crimes est gigantesque. À la fin, on a dénombré pas moins de 64 000 victimes qui ont soit investi directement ou via des fonds nourriciers. Il a placé l'argent de nombreuses familles royales et d'aristocrates en Europe. Et la question que l'on pose, c'est comment ce petit juif de New York a réussi à escroquer tant de gens.
Bernard Madoff devient membre du Palm Beach Country Club, un lieu réservé aux ultra-riches philanthropes.
Le ticket d'entrée s'élevait à 400 000 $ et vous deviez prouver que vous aviez donné l'équivalent aux œuvres de charité dans les 5 dernières années. Et cela, chaque année.
Quand vous faites partie d'un club, surtout aux États-Unis, tout de suite on vous fait beaucoup plus confiance. C'est une société qui est beaucoup plus ouverte, qui vous admet très facilement si vous avez une bonne réputation, si vous montrez que vous avez de l'argent. Et c'est comme ça qu'il a utilisé effectivement un espèce de vernis social qui lui a permis de recruter ses clients.
C'est quelqu'un qui attire les autres. Il est cordial, il est intelligent, brillant, posé. Tellement gentil que tout le monde serait ravi de discuter avec lui. Il utilise tout ça pour prendre encore plus d'argent.
S'il escroque des millionnaires de Floride, il attire également des célébrités prêtes à se jeter dans l'aventure. Steven Spielberg, John Malkovich, Elie Wiesel, tous pensent réaliser l'investissement du siècle. Comment a-t-il pu berner autant de gens avisés? Quelles sont ses techniques de séduction?
Ils se disaient les uns aux autres à quel point il était extraordinaire. Donc Bernard Madoff n'avait pas à convaincre personnellement ses investisseurs. Ils se passaient tous le mot. « Hey, vous devriez faire partie du fonds Madoff parce que c'est 10 à 15% de rentabilité. Il est fantastique. » Cela se passait dans les synagogues à Palm Beach, à Long Island. À n'importe quel moment, ils pouvaient récupérer leur mise. Il n'y avait aucun signe tangible qui pouvait laisser penser que c'était une escroquerie.
Et il adopte toujours la même stratégie. Rendre son fonds exclusif, faire de sa victime une personne privilégiée et surtout se montrer inaccessible.
Lorsque vous alliez voir Bernard Madoff, il allait vous répondre que, de toutes les manières, il n'avait pas de place pour accueillir vos fonds et que par conséquent, il ne pouvait pas travailler pour moi. Ce qui allait forcément générer de la frustration chez ses interlocuteurs. Le second contact, c'était finalement, 6 mois plus tard, j'ai peut-être un peu de place pour vous si vous voulez investir. Et là, le client était très content, flatté, et il allait plutôt proposer d'investir le double.
Et puis, il ajoutait, surtout n'en parler à personne.
Si vous dites à quelqu'un que ce soit un enfant de 4 ans, non, tu n'auras pas ta sucette, ou un entrepreneur de 40 ans, non, je ne placerai pas ton argent, ils deviennent alors prêts à tout. C'est comme cela que Madoff a persuadé les gens d'investir.
Il joue sur un réflexe très simple. Chaque investisseur veut toujours plus d'argent et un rendement le plus constant possible.
Il n'avait pas besoin de prospecter de clients. Les gens lui jetaient l'argent dans les bras. Ils voulaient tous faire partie de l'affaire.
Si les riches investisseurs côtoient directement Madoff, d'autres plus modestes ne l'ont jamais rencontré, mais ont confié leur argent à des sociétés d'investissement qui l'ont placé dans le fonds Madoff.
J'ai dit, mais qui est Bernard Madoff? Et quel rapport a-t-il avec moi? Le gestionnaire me répond alors, en fait, tout l'argent que vous avez investi dans le fonds nourricier a été placé chez Madoff. Et tout a disparu. J'étais un peu déstabilisé. J'ai perdu 400 000 $, donc je suis une des plus petites victimes.
Stephen Greenspan est une victime collatérale de l'escroquerie. Ce psychologue, ironie du sort, travaille depuis longtemps sur le thème de la crédulité. Il a perdu dans cette histoire une partie de ses économies.
Madoff ne promettait pas d'immenses retours sur investissement. Ce qui était malin de sa part. 10% par an, pour toujours. C'était un très bon retour. Meilleur que la plupart des investissements. Mais loin des hedge funds qui promettaient 50, voire 100% par an. Il savait que le type de personne qu'il escroquait aurait été suspicieux à son égard s'il leur avait promis cela.
Le retour sur investissement était bon, mais sans plus. Et c'est ça qui le rendait attractif. Donc c'était un bon psychologue. La plupart des criminels qui ont réussi sont de bons psychologues. Ils savent que les gens ont tendance à être crédules. Et ils savent aussi qu'ils seront trop polissés pour dire « Attends une minute, tu mens, je ne peux pas te croire. »
La question est, comment s'est-il arrangé pour entraîner autant de personnes dans son escroquerie? Il leur disait toujours, je ne peux pas prendre votre argent, je ne peux plus en prendre. À ce moment-là, il ne pouvait réellement plus engranger d'investissement, et c'est, si on peut dire, une manière légitime de dire, si vous investissez chez moi, je peux tout perdre, justement parce que je ne peux plus placer cet argent. En quelque sorte, ça le protégeait.
En se dédouanant de la sorte, Madoff a réussi à convaincre ses victimes, même les plus intelligentes.
L'escroc, l'imposteur, révèle aussi, je dirais, l'avidité de celui qu'il berne. Donc il y a un rapport en miroir, souvent, entre, les imposteurs, les escrocs, et puis leurs victimes.
Vous avez besoin d'une forme de reconnaissance. Fréquenter Madoff, c'était une reconnaissance.
Quelque part, elles se sont laissées abuser parce qu'elles y trouvaient un peu leur compte.
Si ses victimes cherchent à capter l'attention de Madoff, lui, de son côté, les méprise.
Il n'a aucune compassion pour ses victimes. De son point de vue, elles avaient obtenu plus que ce qu'elles méritaient.
Ce que Bernard Madoff confirme dans ses enregistrements inédits depuis sa prison de Caroline du Nord.
It was the people that came in very late in the game that got hurt. Did I make a lot of money for people? Yeah, I made a lot of money for people. You know, did people lose profits that they thought they made? Yes, but did they lose capital? I'm sure, I'm confident that when this thing is all finished, very few people, if any, will lose their principal.
Bernard Madoff voit ses victimes de façon assez cynique. Pour les gens très riches, ils n'ont jamais mis toute leur fortune chez Madoff, donc... Il considère que c'est pas très grave finalement. Puis pour les gens très modestes qu'il a ruinés, il a dit bah, quand on vous promet 10% de rendement par an, c'est qu'il y a un loup. Et donc il fallait pas me faire confiance. Et donc il a un espèce de côté machiavélique comme ça, où, et sans scrupules, sans culpabilité. Et c'est ça qui est le moteur aussi de Bernard Madoff. Je pense qu'on peut pas être un grand escroc si on a un sentiment de culpabilité.
Bernard Madoff a-t-il toujours été un être dénué de tout remords? D'où vient-il? Et quelles pourraient être les circonstances qui l'ont poussé à se lancer dans cette gigantesque escroquerie? Il donne lui-même depuis sa prison quelques éléments de réponse.
Because of my beginnings and because I would have been in a business that was hard to break into in a sense that it was controlled pretty much by, you know, the establishment. And I clearly was an outsider of that establishment, not coming from, you know, money or not certainly coming from even a connected family.
Bernard Madoff est né en 1938 dans une modeste famille d'immigrants d'Europe de l'Est. Il a toujours souffert de ne pas être issu d'un milieu aisé qui lui aurait permis de suivre de bonnes études et de se constituer un réseau.
Son environnement est assez quelconque, de la même manière que son enfance et son adolescence. Il a grandi dans une famille modeste du Queens. Il a fréquenté l'école publique. Il était assez insouciant, membre de l'équipe de natation et sortait avec des filles. Mais je pense qu'il n'y avait aucun signe qui le destinait à devenir un homme aussi important de
Wall Street. C'est quelqu'un qui a une faille dans son enfance. Hein, et il aurait aimé faire de grandes études qu'il n'a pas pu faire. Il aurait aimé. Il avait un petit côté de frustration sociale parce qu'il voyait bien qu'il appartenait pas à la grande société. Son père a eu des soucis professionnels et donc c'est quelqu'un qui avait une sorte de vengeance sociale à prendre.
Bernard Madoff ne possède que deux diplômes, un certificat de maître nageur et une licence en sciences politiques. Il épouse une fille rencontrée au lycée, elle s'appelle Ruth. Elle est pétillante, drôle et moins timide que lui. Ils se marient dans leur quartier d'origine, le Laurelton, et prennent un petit appartement dans le Bayside en restant dans le Queens. Mais Bernard Madoff aspire déjà à mieux. C'est grâce à son beau-père, expert comptable, qu'il constitue son premier portefeuille de clients. Bernard Madoff peut ainsi ouvrir une société d'investissement à 22 ans, alors qu'il est encore maître nageur sur les plages de Long Island.
Il est parti de rien pour monter une petite société de courtage. Ensuite, de là, il est devenu particulièrement innovant dans le secteur boursier. Beaucoup de choses que nous encensons encore aujourd'hui, tant aux États-Unis que partout ailleurs, et qui permettent de faciliter les échanges boursiers, sont des innovations qui ont émergé de la société de Bernard Madoff. Ainsi, il a constitué une incroyable entreprise de courtage, à tel point que pas moins de 10% des opérations d'échange de Wall Street transitaient par sa société.
C'était une belle histoire, comme les Américains l'aiment. C'est-à-dire un maître nageur qui va devenir un des rois de Wall Street.
Sa société de courtage fonctionne bien. Il veut aller plus loin.
C'est un très bon courtier, il se met à gagner beaucoup d'argent parce qu'il a informatisé un certain nombre de tâches qui jusque-là étaient manuelles. Et il devient une belle maison de courtage. Seulement, il n'est que courtier. Courtier, c'est un petit métier à la bourse. Vous êtes un peu méprisé par les grands établissements financiers. Et il sait que dans leur regard, il n'est qu'un exécutant. C'est pas un créatif.
Cette frustration pousse Bernard Madoff à se diversifier en cherchant à entrer dans le monde des investisseurs, mais aussi en innovant. Parmi les premiers à comprendre qu'avec les ordinateurs, la bourse ne sera plus jamais la même, il participe à la fondation du Nasdaq, le premier marché boursier électronique où tout est informatisé.
Il a gravi les échelons à Wall Street jusqu'à devenir vice-président du Nasdaq. Donc c'était quelqu'un qui avait pignon sur rue, en qui les institutions financières avaient confiance.